1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air? Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
SLP, salut les PD, salut Ariane, salut Ghislain, comment ça va?
Bonjour Philippe.
Ça va Philippe?
Ah bah c'est une petite voix Ariane là, qu'est-ce qui se passe?
C'est les nouveaux micros, voilà, si je me mets bien en face j'ai une grosse voix.
Oui
si
voilà,
tu
as une grosse voix, comme ça c'est mieux.
Voilà.
Faut que tu prennes une voix masculine sinon les micros ils l'entendent
pas. Non en fait tu vois,
pas.
Il faut que je me mette tellement droite que j'ai le micro dans les seins et là on m'entend
bien. Et bah il est bien coincé comme ça.
Ouais c'est pas super, bref.
Alors, deuxième émission de notre série sur homosexualité, homophobie, où en sommes-nous, état des lieux. On a balayé un petit peu l'actualité de cet été en France. Aujourd'hui, on va plus se pencher sur le rôle de la France et des citoyens français sur la scène internationale, et notamment à l'ONU. Et on commence tout de suite peut-être avec Henri-Georges Tin.
Louis-Georges.
Henri, ça sonne mieux, je trouve.
Ouais, mais Louis-Georges, ça passe bien aussi.
Et surtout, c'est son prénom. Donc,
voilà.
Louis-Georges Tin. Pardon. On rappelle qui est Louis-Georges Tin.
Donc, c'est le président fondateur du comité et de la journée honteusement appelée Idaho. Alors, c'est une initiative française, donc c'est la journée internationale.
Oui, mais
journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie.
Est-ce que c'est une référence au film de Gus Van Sant,
Idaho.
My Own Private Idaho?
Oui, mais c'est aussi c'est un acronyme, je crois, ou chose comme ça.
Oui, c'est International Day Against Homophobia.
Voilà. Et il a aussi écrit le dictionnaire de l'homophobie, Louis-Georges.
Et alors
voilà, maintenant,
on
voilà,
va l'appeler Henri-Georges maintenant à cause de toi.
Donc, Louis-Georges Tin a entamé une grève de la faim cet été, c'est ça?
Voilà, au début de l'été, et on va entendre des extraits d'une interview réalisée pendant la grève de la faim.
Est-ce qu'il faut préciser ses revendications, ou est-ce qu'il en parle dans le son qu'on va entendre?
Le son parle de lui-même. Ça va être mon refrain.
C'est formidable.
C'est la phrase à placer à chaque émission.
Je suis pas que ça va être mon gimmick
tendu la
de
perche.
L'année. Oui, bah, c'est moi les perches.
On l'écoute. Bref.
Nous nous sommes adressés à M. Hollande le 10 mai dernier pour qu'il porte aux Nations Unies une résolution pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80 pays pénalisent l'homosexualité. La peine de mort est appliquée dans 7 d'entre eux. Et cet engagement n'est pas suivi des faits. Le Quai d'Orsay s'y refuse. Et il y a pourtant urgence, car l'année prochaine, pour des raisons de calendrier international, tout porte à penser que ce texte ne sera pas possible, en fait. Pour une raison simple, c'est que nous avons besoin de la diplomatie américaine, qui est très importante, évidemment, et Hillary Clinton est très engagée sur ces questions. Si Barack Obama est réélu en novembre 2012, elle a déjà annoncé qu'elle quittera ses fonctions de toute façon, et a fortiori, si ce sont les républicains qui passent, nous savons déjà que cette question ne sera pas portée. Donc c'est pour cela que cette question doit être portée maintenant ou jamais.
Barack Obama a quand même pris l'initiative de faire changer la position des Américains. Là-dessus, vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui, même sans Hillary Clinton, qui pourrait lui tenir à cœur?
Non, il n'y a pas le même engagement. Barack Obama est plutôt ouvert sur ces questions, mais très timoré. On l'a vu sur la loi dans l'armée, sur le mariage, il a mis du temps. Hillary Clinton, ce n'est pas du tout le même niveau d'investissement. Elle est très engagée. Elle a fait parfois des passages en force avec beaucoup d'efficacité, de volontarisme. Et il y a peu de personnes qui auraient ce volontarisme. Donc même avec Barack Obama l'année prochaine, tout le monde doute fort que l'on ait une Hillary Clinton sur ces questions.
Ramayad a porté pour la France devant l'ONU une déclaration et aujourd'hui vous demandez une résolution. Quelle est la différence entre la déclaration et la résolution à l'ONU ?
En 2008, nous avons poussé la France à porter cette déclaration pour la dépénalisation, mais une déclaration est un texte symbolique, une résolution est un texte contraignant. Nous aurions demain une résolution, les pays qui pénalisent seraient hors la loi. Ça ne veut pas dire qu'ils iraient tous obtempérer. Il y a des pays comme, je ne sais pas, l'Iran ou l'Arabie Saoudite qui se fichent complètement d'une résolution des Nations Unies. Mais vous en avez d'autres qui veulent être dans le jeu de la démocratie internationale et qui se sentiraient très mal à l'aise et qui, progressivement, pourraient abolir la pénalisation chez eux et de proche en proche, on pourrait enclencher un cercle vertueux en faveur des droits humains.
SLP, la émission.
C'est non, la interview, c'était la télé libre.
Et donc c'était Louis-Georges Thin.
Très bien, bravo, tu auras un bon point.
Alors, peut-être qu'il faut faire un petit peu l'historique de ce qui s'est passé à l'ONU ces 4-5 dernières années et remonter à ce qui est évoqué un moment dans le son, c'est-à-dire la déclaration portée par
Ramayad.
Donc c'était en 2008, tu me le confirmes, Marianne, c'est ça ?
Oui, c'est ce qu'il y a sur le palpier que je t'ai fait passer, que tu as devant toi.
Ah non, c'est pas précis que c'est 2008, ah bon, mais j'ai cru...
C'est sur la deuxième page.
D'accord, c'est sur la deuxième page, ok.
Faut lire ce qu'elle te donne.
Ah oui,
ouais. Mais fallait lire avant l'émission. De...
Donc en 2008, c'est une déclaration.
Voilà.
C'est ça. Donc aujourd'hui, ce sur quoi Louis-Georges Thin se bat, c'est que en fait, il veut véritablement une résolution.
Alors, je voudrais rassurer tout de suite les auditeurs. La grève de la faim, c'était début juillet. Elle a cessé depuis un an, septembre. Enfin, non, même en octobre, pardon. Je viens de dévoiler que nous enregistrons.
Donc, il a cessé pour des raisons de santé. Mais il faut dire que cette grève de la faim n'a pas forcément. Enfin, elle n'a pas été forcément été accueillie de façon
clair.
Unanime, même au niveau de l'ONU, des militants LGBT de par le monde, il y avait quand même des positions plus nuancées, je ne sais pas, enfin plus relatives en tous les cas.
Bah, disons que... par exemple, donc moi j'ai lu ce que Ariane m'a donné. Il y a donc monsieur Bruno Selin qui est le secrétaire de l'intergroupe LGBT du Parlement européen,
ouais.
Qui a donc fait un article où il apporte quelques arguments contre cette grève de la faim, parce que pour lui c'est hâter les choses serait contre-productif. C'est-à-dire qu'il met vraiment en parallèle, ouais, il dit qu'il faut respecter le temps diplomatique qui n'est pas exactement le même que le temps politique, voilà, qui est beaucoup plus lent.
D'ailleurs, je te coupe juste parce qu'à un moment, effectivement, dans ce qu'on a entendu de son interview, il fait mention de Hillary Clinton qui risque de quitter lors du second, enfin, s'il y a second mandat éventuellement de Barack Obama, son poste diplomatique. Et du coup, elle, apparemment, a une position très claire et très en faveur de cette résolution.
Voilà.
Et en fait, son éventuel départ, apparemment pour Louis-Georges Thin...
Ça hypothèque toute chance d'aboutissement de la résolution.
C'est son discours.
Bah là, pour l'année 2012, oui.
D'accord, d'accord.
De toute façon...
Par contre, ce que dit ce monsieur Bruno Selin, c'est que, en fait, miser tout sur un seul cheval, c'est-à-dire sur le rôle de l'Amérique, c'est nier tout le travail qui a été fait par les militants, notamment des pays du Sud, et que, encore une fois, ça mène pas à grand-chose. Je vais vous lire des petits bouts d'articles.
Oui, hein.
Alors, ce monsieur Bruno Selin, il nous dit... Regardons la vérité en face. Une résolution pour la décriminalisation telle que proposée par Louis-Georges Tin ne décriminalise. C'est dur à dire, ça. Enfin bon, ça marchera pas. Comment espérer qu'une résolution adoptée par une majorité forcée par les pays du Nord contraindrait l'un des 78 pays à faire quoi que ce soit? Que fera l'ONU? Envoyer des casques bleus? Les pourvoyeurs d'aide au développement réduiront leur contribution aux pays criminalisants, le contraire de ce que réclamaient les activistes du Sud? Non, ces lois et codes pénaux resteront en l'état, car une résolution ne sert à rien sans un appui minimal au sein de chacun des grands groupes de pays onusiens. Mais le débat et le vote d'une résolution proposée par le Nord élargiront le fossé séparant les deux camps, rendant encore plus difficile un réel progrès au long terme. Proposer une telle résolution contribuerait à polariser irrémédiablement les positions des uns et des autres, le Sud réaffirmant sa souveraineté culturelle et le Nord son attachement aux droits de l'homme. Plus de bras seront croisés, plus de portes claquées. Et si une telle résolution était proposée puis rejetée? Car voilà le réel danger. Un échec garantirait d'enterrer le dossier pour les 10 années à venir. Cela coûterait des années d'efforts au mouvement LGBT et permettrait justement aux arrestations et aux violences contre lesquelles nous nous érigeons tous de continuer, nouvellement justifiés par un tel résultat. Apportons plutôt des réponses adaptées et concertées aux arrestations et aux violences. Octroyons des fonds conséquents aux associations des défenseurs des droits de l'homme dans ces 78 pays. Encourageons un dialogue ferme mais respectueux entre États et exigeons que nos diplomates utilisent systématiquement la boîte à outils LGBT de l'Union européenne.
Alors, il y a matière à débat. Là-dessus, parce que je sens que tu t'es crispé, Ariane.
Oui.
En fait, ce qui m'embête, c'est que depuis...
Attends, est-ce que tu veux pas qu'on fasse une pause musicale?
D'accord.
Parce qu'on est à la moitié de l'émission. Et après, effectivement, on débat là-dessus sur ces positions.
Ouais, ça va me permettre de la calmer un peu. Ça sera mieux, je pense.
C'est parti.
Thank you. 3000 razones para darte mi amor. 3000 razones para darte el corazón. 3000 razones para darte mi amor. 3000 razones para darte el corazón.
Et ben voilà, ça c'était Brown Van 3000 et Curtis Mayfield. J'aime bien dire Brown Van 3000 parce que Brown Van 3000, c'est plus compliqué. Un Ariane.
Et UB40. Et bon, les B52.
Aussi. Le débat a commencé pendant la pause musicale. Faut-il, oui ou non, aller voir Best Ditto et Gossip au Zénith au mois de novembre? Je crois qu'on va répondre oui quand même, quoi.
Bah ouais.
Mais en fait, c'est pas quand même le débat qui nous occupe véritablement. Donc on en revient à nos petites affaires et à la grève de la faim de.
Non, Best Ditto, c'est nos petites affaires, les grandes affaires, c'est les.
Tu crois? Est-ce que c'est pas le contraire?
Oh là là.
Donc, la grève de la faim de Louis Georgetin, qui a été perçue de façon un peu nuancée sur la scène internationale, pour ou contre, on a entendu les arguments, contre ou qui relativisaient quand même sa position. Ariane, ça t'a un peu énervé?
Bah, en fait, les gens qui disent oui, il faut un temps, etc., des fois, j'ai l'impression qu'ils sont. Parce que même s'ils parlent d'outils qui sont déjà là, bon, c'est bien de le savoir hein, qu'il y a des outils qui sont mis à disposition. Après, je ne sais pas comment ils sont diffusés, socialisés et comment ils peuvent être réellement accessibles pour les personnes sur place. Parce que, enfin, il y a des gens qui meurent, quoi.
Oui, oui. Mais en même temps, alors, moi, ce qui m'a semblé comprendre dans l'argumentation qui était développée par Bruno Solin, c'est que quand même. Il y a une prise en compte des réalités locales, c'est-à-dire qu'il y a des militants LGBT de ces pays dont il est question. Et là, si tu veux, apparemment, c'est comme si la demande de résolution était d'une certaine façon inenvisageable dans ces pays-là, parce que d'une portée hors des réalités culturel, local.
Je comprends complètement le risque de clivage. C'est un peu ce qu'on voit en France avec le débat actuel, comment il y a des gens qui s'arc-boutent sur des choses qu'on pensait complètement dépassées et où il y a vraiment une incommunication parce que oui, on n'a pas le même lexique, on n'a pas juste parce que c'est pas possible dans leur espace culturel, symbolique, j'en sais rien. Mais oui, moi, je... Enfin, voilà, la démarche de Louis Georgetin, moi, ça m'a rappelé que... et puis, c'était aussi le discours qu'il y avait autour, c'est que c'est pas parce qu'en France, on va vers une égalité des droits plus pleine que c'est le cas partout. Et c'est pas parce qu'on va faire la fête parce qu'on peut se marier ici que les gens arrêtent de mourir ailleurs, quoi.
Non, mais ça, c'est sûr que les gens arrêtent pas forcément de mourir ailleurs. Maintenant... que cette résolution soit votée ou non aujourd'hui, est-ce que pour autant ça changera fondamentalement les réalités locales dont il est question?
Ce que ce monsieur Solin dit, c'est qu'en fait, cette résolution, si elle est votée, parce qu'il y a risque qu'elle ne soit pas votée, et là ça serait pire, parce que on repart à zéro et on en a encore pour au moins 10 ans. Donc si elle était votée aujourd'hui, elle ne serait pas appliquée de toute façon. Donc ça changerait strictement rien. On aurait créé quelque chose qui ne change rien et on aurait crispé des pays.
Mais alors les pays qui ont porté
la
déclaration. Non, mais en 2011, il y a eu autre chose qui n'a pas été portée spécifiquement par la France, qui elle a été une initiative qui est venue de pays dits du Sud. Ça m'énerve cette expression, donc déjà il n'a pas mon amitié, Bruno Solin.
Oui, mais il a dit aussi droits de l'homme. J'ai pensé à ça en le disant et je sais que tu n'aimes pas.
Oui, les droits humains, merci.
Résolution sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, c'est ça?
Oui, voilà, donc dans mon souvenir, c'était l'Argentine et le Brésil qui avaient été chevilles ouvrières dans cette résolution, donc des pays dits du Sud, mais qui sont relativement isolés, en fait,
est-ce
au
qu'on
niveau
parle,
de leur
espace. Si on parle de pays émergents, ça te convient quand même.
Ouais, émergents,
enfin,
quoi.
Ils ont émergé quand même, le Brésil.
C'est l'Atlantide ou quoi, chez eux, enfin, je sais pas.
Non, c'est le pays immergé, l'Atlantide.
Oui, mais ils émergent, alors j'en sais pas, enfin, tu vois.
Non, non, mais c'est intéressant en tout cas que ces affaires-là soient prises en charge par des pays auxquels on ne s'attend pas forcément. Mmh. Alors, tu vois, je trouve ça intéressant et qu'on laisse ces pays s'approprier.
Non, mais moi, ma question,
et,
c'est
et
combien de temps ça va mettre en fait ?
Ah ben, oui, non, mais enfin, c'est une vraie question. Combien de temps ça va mettre ? Je pense qu'effectivement, tu ne changes pas forcément. Une réalité locale extrême et radicale du jour au lendemain. C'est là où, effectivement, je me dis que... Alors, c'est l'éternel débat entre les révolutionnaires et les réformistes. Mais est-ce que au final, les deux ne sont pas nécessaires, tu vois? Je pense que des initiatives comme celle prise par Louis Georgetin, même s'il n'est pas allé au bout de sa grève de la faim, le simple fait qu'il ait décidé de la faire... Qu'on en ait parlé, ça a forcément effectivement généré des réactions, des débats et sans doute effectivement des évolutions qui portent leurs fruits comme ça petit à petit. Mais de là à changer une situation du jour au lendemain, au niveau mondial, effectivement, je pense que c'est des réformes qui se font pas en un an, quoi.
En un claquement de doigts, oui, bien sûr. Mais oui, moi je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il a eu tout à fait raison de faire cette grève de la faim et de pas aller jusqu'au bout et de l'arrêter avant. Parce que voilà, ça rejoint en fait ce que tu disais aussi, c'est-à-dire qu'il nous montre l'urgence de faire, donc peut-être il a hâté un tout petit peu plus les choses, on a peut-être gagné quelques mois, enfin tu vois ce que je veux dire, il a peut-être pointé que c'était important et urgent, et il y a quand même quelque chose qui commence à naître depuis quelque temps. On a commencé à le voir avec Mugabe, on a commencé à le voir avec le bateau en Égypte avec plein de PD dedans et qu'ils avaient été arrêtés, certains condamnés.
Un bateau avec plein de PD dedans.
Mon Dieu, quelle horreur. Et c'était il y a quelques années. Et là, avec le monsieur du SMS qui a été condamné en Ouganda, c'est ça ?
C'est au Cameroun.
Au
ça.
Cameroun, tu vois.
L'Ouganda, je crois c'est que Mugabe. C'est le pays où ils,
ouais, où ils veulent tuer.
Voilà, ils menacent. Enfin, il y a la menace d'une loi maintenant qui rendrait possible de mort.
Mondialement. Maintenant, il y a des gens qui réagissent à ça et qui partent en soutien de ça. C'est-à-dire que il y a, grâce à Internet, vous avez le monsieur du SMS.
Donc
là,
c'est le réseau All Out qui fait le battage sur Roger, je crois. Il s'appelle, qui va être jugé donc en novembre pour voir sa peine de prison éventuellement prolongée, alors qu'il a subi des sévices en plus en prison depuis.
Ouais, non, mais c'est enfin voilà, c'est-à-dire qu'il y a une tout à coup ces sujets LGBT mobilisent les gens et font que ça on commence à en parler, on commence à tu vois il y a.
Mais ça du coup effectivement je comprends la réaction d'Ariane parce que ça du coup c'est un effet un peu flippant aussi, c'est-à-dire que il y a tout un tas d'événements comme ça,
oui,
dont on parle.
On a l'impression que la fréquence augmente, voilà. Ou la gravité des faits augmente,
alors
mais c'est peut-être juste avant, on n'entendait peut-être pas parler. Quoi.
Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les évolutions dans ce domaine-là qui font que, et l'organisation de réseaux, l'émergence effectivement d'une communication autour de ça, qui fait qu'on peut avoir le sentiment que finalement, c'est la situation est pire qu'elle n'était. Or, je ne suis pas certain. Je pense qu'au contraire, effectivement, les choses sont en train de s'organiser pour que justement on parle de ces choses-là, des événements qui seraient passés complètement à la trappe autrement. Mais effectivement, le contre-effet de ça, c'est que pour nous qui sommes directement concernés, on s'est dit, mais la situation empire. Peut-être pas forcément.
Peut-être pas forcément, mais en tout cas, ça permet de montrer qu'il y a des choses graves qui se passent et qu'il est important d'agir et que tout ça, en fait, ça marche ensemble. C'est-à-dire la grève de la faim, les gens qui sont contre cette grève de la faim plus cette mobilisation mondiale, ça marche ensemble vers le même but.
Est-ce qu'on t'a rassuré, Ariane ?
Ça va mieux, merci.
Ça va mieux. Donc la résolution dont tu as parlé, mais peut-être qu'on l'évoquera plutôt dans la troisième émission, parce qu'effectivement c'est l'initiative de pays dit du Sud.
Je ne sais plus quoi dire.
Voilà. Et mais elle est importante cette résolution. Donc effectivement, c'est la résolution sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et on en a parlé pour la première fois. Elle a été soutenue quand même par un certain nombre de pays. Pays occidentaux, mais pas seulement, quoi. Pas seulement. Je vous propose qu'on revient là-dessus lors de notre troisième émission. Le thème de la troisième émission, on a dit que c'était quoi ?
Les initiatives d'ailleurs, voilà, puisque là on était avec les initiatives de France et maintenant...
Et d'ailleurs d'où?
Mais justement,
on... ni des pays du sud,
ni émergents, ni
c'est
voilà,
ça, mais je voulais,
ailleurs.
Je voulais te l'entendre
c'était
dire.
Bien ailleurs.
Ok, ben, voilà, je crois qu'on est au bout, vous avez quelque chose à rajouter sur...
À la semaine prochaine.
Je suis d'accord, ça, je vote okay. pour.
À la semaine prochaine, au revoir.